Non.
Vous allez découvrir Frarizaya, ça va être une bonne année pour vous. Ça, je vous garantis qu'elle va démarrer bien. Je vous souhaite bonne, mais je sais qu'elle va démarrer bien déjà. On est vraiment content de vous retrouver. Je voulais vous donner 2-3 petites informations. Il y en avait certainement qui avaient repéré, qui étaient dans le groupe de Alain Duchâtel, qui était un étudiant de deuxième année et qui est décédé avant Noël.
Non, Alain.
Ouais. Un monsieur d'à peu près 80 ans.
Ah oui, Alain est mort.
Ouais.
Oh, c'est vrai, c'est pas possible.
Il
nous a dit qu'il avait des problèmes de santé.
Voilà.
Il ne sait pas.
Sa femme l'a fait le CIF aussi, donc c'est pareil que je l'ai su. Il était dans le groupe d'Emmanuel.
Oui,
dans
oui,
le groupe, voilà. Et en fait, ça a été très, très, très soudain. Il a été dans le coma pendant une semaine et il ne pouvait plus communiquer. Et donc, il a problème cardiaque grave. Ils n'ont pas réussi à le sauver. Voilà. Et donc, on l'a su juste pratiquement 2 jours avant Noël. Donc, peut-être que. Moi, je pensais que votre accompagnatrice vous l'avait dit. C'est pour ça que je vous en ai pas. Voilà. Elle était au courant. Enfin, Chantal lui avait. Chantal, la femme d'Alain, avait tenu au courant Emmanuel, donc normalement elle était au courant.
Je ne sais pas si elle a expliqué ce qu'on a changé. Je suis désolée, c'est quand même quelque chose.
Bah oui, c'est quelque chose.
Je vais échanger avec cette femme-là normalement.
Mais si vous voulez l'adresse mail de sa femme, je vous la remettre un jour. Voilà, si vous aussi certains veulent,
c'est
ça.
C'est souvent un droit des amours.
Alors, d'autres petites choses. Alors d'abord, on a quand même 2 nouveaux, un faux nouveau. Pierre, je crois que vous avez déjà fait le CIF.
Ah oui, il y a longtemps.
Il y a longtemps.
Je ne sais pas quelle année.
Oui, il y a moins.
5-6 ans.
Oui, au moins. 5-6
ans.
Bon, et donc, ça n'a pas tari votre goût, c'est bien. Donc, et vous n'aviez pas eu Isaïa alors
non,
pendant le cours sur les sacrements. Vous aviez eu
Louis-Marie Chauvet.
Oui, c'est ça.
Ah, Louis-Marie Chauvet.
Oui,
d'accord. Très bien. Et puis, Eric, voilà. Eric, dites-nous un petit mot, vous êtes diacre.
Voilà, je suis diacre à Saint-Cloud là, depuis 2 ans, la troisième année. Et puis, voilà, donc, je suis en retraite depuis le mois de novembre. Et donc, j'ai un peu de temps, je me dis, je vais essayer de trouver une formation. Donc, je voulais faire quelque chose à la Cato, mais c'était déjà commencé, donc ce n'était pas évident. Et puis, j'avais déjà eu des interventions par Roselyne là, au niveau des déchets, enfin, chez nous, en diocèse, là. Et elle m'en avait déjà parlé du CIF. Les sacrements, c'est quand même quelque chose à approfondir, c'est quand même bien pour un diacre. On en discute avec les futurs couples et les baptisés, tout ça. Voilà.
Très bien, bienvenue, j'espère que ça va vous plaire. Et puis, on parlait de Roselyne, donc vous allez recevoir un mail, peut-être même ça y est, déjà envoyé, on va le faire. Donc je vous rappelle que samedi, c'était dans le calendrier, samedi, il y a dans le calendrier de première année, il y a la journée sur le Nouveau Testament de Roselyne. Peut-être que, comme c'est le samedi, peut-être que certains d'entre vous n'ont pas pu y assister l'année dernière. Elle ouvrait le cours sur le Christ. C'est la même que l'année dernière, ça se répète d'année en année. Donc si vous l'avez raté, vous n'hésitez pas, vous y venez. C'est de 9h30 à 16h ici. Voilà, donc introduction au Nouveau Testament. Voilà. Et puis surtout, n'hésitez pas à faire venir des amis, hein, ou à en parler à des amis. Vraiment, on nous le dit à chaque fois, il y a des gens qui ont vraiment découvert le CIF par ce biais-là. Et on a cette année une dame en première année. C'est inscrite juste parce qu'elle était venue à la journée de Roselyne. Donc ça lui a vraiment donné envie d'aller plus loin. Donc diffusez largement le mail autour de vous, n'hésitez pas. Autre date, c'est le 28 mars. Ça, c'était dans votre calendrier, mais il y avait encore une option. C'est la journée sur les évangéliques. Donc vous avez mis 21 ou 28 mars. C'est le 28. C'est la journée sur l'œcuménisme ou le dialogue interreligieux, une année les autres religions, une année les différentes confessions chrétiennes. Et cette année, on va partir faire la connaissance des évangéliques. qui prennent beaucoup d'importance dans le monde entier, mais aussi, aussi à Paris, et notamment dans le 93 et le 94, il commence à y avoir des méga-churches.
La Gospel Church. La Gospel Church.
Bon, il y en a plein de temps. Il y en a une au Blanc-Mesnil, il y a un grand centre qui va ouvrir à Créteil. Et donc, on va avoir deux invités très intéressants qui sont le pasteur Étienne Lermenot, qui a été pendant 10 ans le premier président du Conseil national des évangéliques de France, qui va un peu nous débroussailler toute cette nébuleuse, et puis nous aider à comprendre leur origine, et puis les éléments centraux dans leur foi. Toujours intéressant pour mieux réfléchir nous-mêmes à la nôtre. Et puis l'après-midi, on aura Valérie Duval-Poujol, qui est baptiste, qui est enseignante à Bibliste, enseignante à l'Institut catholique de Paris notamment, et qui va nous proposer une conférence pour réfléchir au rapport qu'on entretient avec l'écriture. Et donc chez les évangéliques, on a un rapport à la Bible qui est parfois un peu différent du nôtre. On a entendu parler de fondamentalisme. Tous les mouvements évangéliques ne sont pas là-dedans, mais très intéressant parce qu'on a beaucoup d'idées toutes faites sur les évangéliques. En fait, c'est un grand magma très compliqué avec beaucoup de tendances à l'intérieur. Voilà, une occasion de nous faire. Et là, c'est pareil, c'est une journée ouverte à tous, donc vous allez recevoir un mail le moment venu. N'hésitez pas à rediffuser autour de vous. Mais d'ores et déjà, vous pouvez bloquer le 28. Dernière chose, on était dernière minute, on m'a demandé hier de venir ce matin à Radio Notre-Dame. Donc le site est passé à Radio Notre-Dame. Vous l'avez entendu ?
Oui, je vais repasser.
Ah !
Il faut venir à 14h.
Bah écoutez, en tout cas, ça marche. Il y a déjà 2 personnes qui se sont inscrites de plus. Voilà. Donc, très bien. Donc, c'est des bonnes occasions pour des gens qui se demandent ce que c'est. En podcast, ils peuvent réécouter. C'est une autre manière d'entendre parler du CIF. Voilà, donc ça, c'est bien. Et puis, alors, Isaiah, maintenant. Alors, Isaiah, il faut savoir que c'est un des fidèles du CIF. C'est vraiment un énorme soutien pour toute notre équipe. Vraiment, parce que, ben, vous allez voir, d'abord, c'est une très, très belle personne, franchement. Et puis, je crois qu'il aime enseigner ici. Ça fait 5 ans ou 6 ans ?
Oui, 5 ans peut-être.
5 ans, il enseigne là. Alors, bon, il va vous dire mieux que moi, mais il enseigne à la Cato, en différents endroits. Isaiah est moine, donc je pense que c'est aussi une des richesses ici, c'est que vous avez vu des enseignantes, ben, vous sortez d'un cours avec une femme laïque, vous avez été prêtre, voilà, maintenant vous avez Isaiah. Chacun arrive avec sa personnalité, ses propres formations. Je sais que c'est un endroit, en tout cas, vous pourrez vraiment poser vos questions en toute liberté. Isaiah est toujours très à l'écoute. Je pense que vous apprécierez ça. À la fois sa grande érudition et en même temps sa grande bienveillance et sa mesure dans les choses. Et, bon, enfin, moi, il nous a encore représenté son cours. Pour la petite anecdote, on avait une réunion avec les accompagnateurs pour qu'ils nous représentent son cours. Avec les grèves, il y en avait plein qui n'étaient pas là. Il n'y avait que des anciens. On s'est tapé 2 heures de transport pour un cours qu'on connaît déjà. Il les a retournés comme une crêpe. On a passé 2 heures avec lui. Ils nous ont dit c'est déjà fini alors qu'il venait de se plaindre avant. Voilà.
Je suis très intimidé par la présentation d'Aude, naturellement. Il me met la barre très haut. Hein. Je suis heureux de vous retrouver. Bonne année à chacune et à chacun. Nous commençons ensemble l'année, en fin de compte, dans une intelligence de la foi. Du coup, le mot peut être bienvenu. Bon, je prolonge peut-être dans le niveau des connaissances. Nous aurons 3 mois pour nous connaître davantage. Hein. Mais voilà, je vous dis quelques mots pour que vous sachiez me situer. Donc, je suis italien d'origine, je suis né à Turin. Vous entendez bien l'accent. Donc, vous allez vous dépayser un peu. Donc, j'ai quitté l'Italie pour devenir moine. Donc, je suis rentré au monastère de Lérins. Vous voyez où c'est ? Dans le midi de la France, en face de Cannes. Il n'y a pas que le festival du cinéma, il y a aussi des moines, pas à Cannes, devant Cannes, sur une île. Et donc, c'est un des sites les plus anciens. Nous sommes un peu chauvins, nous disons toujours. C'est plus ancien que le Moatos, quand même, hein, qu'on le sache. Donc, l'implantation monastique remonte au 5e siècle, au début du 5e siècle. Et donc, je suis rentré au monastère là. Puis, l'abbé de l'époque, qui est devenu évêque entre-temps, d'abord à Chartres, puis à Tours, et qui vient de laisser des missions, parce que pour les limites d'âge, m'avait envoyé une étude ici à la Cato. J'étais formé ici à l'Institut catholique de Paris, à la faculté de théologie, dans un institut qu'on connaît peu, mais qui fait un bon travail, à mon avis. Il s'appelle l'Institut supérieur de liturgie. Et donc, c'est un institut de deuxième cycle universitaire. Et il donne, il livre des diplômes qui ont pour objet donc la liturgie sacramentaire. Voilà. Et donc, j'étais formé là-bas. J'ai soutenu un master, au comme on dit aujourd'hui, un mémoire à l'époque. Juste il y a 2 ans ou 3 ans, j'ai terminé ma thèse sur travaux et je continue à enseigner à la Cato. Et donc, je suis représentatif du dicton « L'habit ne fait pas le moine », n'est-ce pas? Donc, n'attendez-vous de me voir ici en cistercien, voilà, donc un habit cistercien. Mais je suis tout à fait à l'aise, je suis plutôt de la génération plutôt foucauldienne, le choix de Foucault qui aime une discrétion dans la vie de foi et dans la vie chrétienne, voilà. Je suis diacre, là comme il y a un confrère, diacre moine, donc c'est très différent d'un diacre qui est présent dans une paroisse. Hein. Nous n'avons pas, on aura le temps peut-être d'échanger, mais vous savez que les moines n'ont pas de charge pastorale, donc du coup... paradoxalement, je vous parle des sacrements sans en avoir vraiment l'habitude de les célébrer, au moins pas le mariage, pas le baptême pour moi et pas d'autres sacrements, mais voilà, le domaine des sacrements, c'est quelque chose que j'ai reçu de Louis-Marie Chauvet qui m'a précédé. C'est Louis-Marie Chauvet, grand sacramentologue, on commence déjà avec les gros mots, hein. Grand sacramentologue, c'est pas un juron, hein, ça vient de sacrement, quelqu'un qui travaille, qui réfléchit au sacrement. Et Louis-Marie Chauvet était mon professeur à moi, et puis il m'a dénoncé ici. Donc du coup, c'est grâce à cette grâce, à cause de sa dénonciation, ou grâce à sa dénonciation, que je suis ici depuis 5 ans. Alors, le style qui est le mien est un peu différent de Louis-Marie Chauvet, mais naturellement, j'adhère complètement à sa vision de la vie sacramentelle et de la manière dont on retient les sacrements. Et donc, voilà. Je termine ma biographie. Donc, envoyé en études, je suis revenu au monastère où j'ai été maître des novices, responsable du chant liturgique. Dans un monastère, c'est une grosse affaire. Et puis, on m'a rappelé ici à Paris vers 2003 pour enseigner à la Cato. Et c'est comme ça que je suis plutôt présent à Paris, en vérité. Hein. J'habite chez les bénédictins. Il y a un monastère bénédictin à Paris, personne ne le sait, qui a été fondé au début du siècle dernier, donc du 20e siècle, et qui se situe à rue de la Source, dans le 16e, à côté des orphelins d'Auteuil, à côté de la maison de la radio, vous voyez, dans ce quartier-là. Hein, il y a un tout petit monastère, et nous sommes 4 ou 5 moines. Parce que je suis cistercien, eux sont bénédictins, on fait de l'écuménisme monastique. Donc, parce que vous savez que c'est pas pareil, hein, moine bénédictin ou moine cistercien. Et voilà, donc et je fais volontiers, je donne volontiers ces cours. À la Cato, à l'Institut catholique, j'enseigne tout ce qui concerne la liturgie et les sacrements, justement, pas tous les sacrements, mais surtout l'initiation chrétienne, pour nous, c'est le baptême, la confirmation, l'Eucharistie. Et puis d'autres aspects écuméniques. Alors mon domaine de recherche est plutôt celui de l'antiquité chrétienne, donc disons des origines du christianisme jusqu'au 8e siècle. Je suis plutôt, dire spécialiste c'est un gros mot là aussi, je me connais sur ces choses-là de cette période, et donc cela fait que assez souvent j'ai été appelé au sein de l'Institut catholique à participer aussi ou être chargé de cours qui ont comme aspect l'écuménisme, donc le dialogue écuménique avec notamment les églises orientales et donc dont je fais l'enseignement encore actuellement, les traditions liturgiques des églises orientales, voilà. Mais j'ai fait justement des cours avec aussi un collègue protestant, donc je suis très sensible à ça. Tout ça, pas pour me faire beau, mais pour vous dire que ça va animer naturellement notre cours. Hein. Donc, je commencerai par l'introduction. Je commence à vous donner ça, le plan de ce qu'on va dire ensemble aujourd'hui. dans les deux heures que nous avons. Et puis comme ça, je suis déjà à l'introduction. À l'introduction générale. Probablement, voilà, il y en a un recto verso, je pense. Voilà. Voilà, donc le cours qu'on va tisser ensemble, hein, a pour objet les sacrements. Et le but, un peu comme disait le titre très alléchant donné par le CIF, c'est celui de comprendre pourquoi nous vivons des sacrements. Les sacrements nous sont donnés, nous y participons, ou nous y participons plus, ou nous y participons de temps en temps, hein. Peut-être parfois à la messe, parfois un baptême de quelqu'un qu'on connaît, ou d'un petit-fils, ou voilà, parfois on participe à des mariages encore, surtout souvent des funérailles aujourd'hui. Ce n'est pas un sacrement, mais on verra ensemble pourquoi je l'ai mis là, pour qu'on en parle, hein. Mais voilà, notre vie est jalonnée par cette participation à la vie ecclésiale à travers les sacrements, entre autres. Quand nous voulons aller à l'église, nous y allons, nous pouvons y aller bien sûr personnellement, individuellement. Nous entrons dans une église, nous prions, même on peut y passer devant et penser à avoir une prière en nous-mêmes sans y entrer, vous voyez. Mais il y a un aspect de la vie ecclésiale qui est toujours lié à la vie sacramentelle. Donc c'est de cela que nous allons parler. Pourquoi les sacrements ? À quoi ça sert les sacrements ? Pourquoi nous avons été baptisés ? Ou pourquoi nous ne le sommes pas encore ? Pourquoi nous devrions, par exemple, proposer aux petits-fils que nous avons d'être baptisés ou d'être confirmés, voyez ? Pourquoi nous devons participer à l'Eucharistie dominicale ou hebdomadaire, n'importe, pourquoi nous devons aller de temps en temps à l'Eucharistie, voyez ? C'est des questions tout à fait à la fois concrète et spirituelle, hein, en sachant que le seul contact que nous avons, un des contacts privilégiés que nous avons avec la vie ecclésiale, effectivement, c'est celle de la vie sacramentelle, n'est-ce pas? Nous le verrons à la fin de cette partie, les sacrements jalonnent notre vie. Est-ce que vous y avez jamais pensé? Nous avons commencé par le baptême et nous terminerons par les funérailles. La blague d'un prêtre italien était celle-ci: comme les gens n'allaient plus à l'église dans sa paroisse, il avait mis un papier devant la porte de l'église: si vous ne voulez pas venir seulement aux funérailles, venez quand même avant les funérailles. Voilà, donc, mais c'est ça, notre vie est tendue entre notre baptême, entre la plongée dans la piscine de baptisement, l'immersion, l'aspersion de l'eau bénite, de l'eau consacrée au moment du baptême, et les funérailles chrétiennes. Voilà. Et donc, tout au milieu, là, passent d'autres gestes sacramentels très importants dans notre vie, qui jalonnent notre vie, hein, en tant que chrétien. Parfois, il éveille cette vie. Parfois, les sacrements passent sans qu'ils produisent vraiment quelque chose. Mais c'est important de saisir que notre vie est jalonnée par ces gestes sacramentels. Voilà. Donc l'objet est bien celui-ci. Vous l'avez remarqué dans le papier qui était mis au fond de la salle. Voilà. J'essaie de vous donner quelques indications comme une sorte d'agence de voyage où on va. Aujourd'hui, c'est plutôt une introduction générale à qu'est-ce qu'un sacrement. Nous essayons de réfléchir sur cette question-là. Et puis nous attaquons, vous voyez, chaque fois un sacrement précis. Là, je vous ai mis l'initiation chrétienne. C'est une expression que vous connaissez déjà, que vous ne connaissez pas, mais on est habitué aujourd'hui dans l'Église catholique à appeler l'initiation chrétienne le sacrement, en vérité, décliné en trois moments précis qui sont le baptême, la confirmation et l'Eucharistie. Nous verrons pourquoi initiation chrétienne. Vous pouvez déjà le pressentir, hein. Y être initié, c'est entrer quelque part, hein. et chrétienne, parce que c'est une initiation à proprement parler chrétienne. Pas, c'est pas une initiation maçonnique, justement. Même les maçons parlent d'initiation, n'est-ce pas? Ou même dans les périodes, dans le paganisme, on parlait d'initiation à Isis, à n'importe quel autre dieu. Là, c'est une initiation chrétienne, donc déclinée par le baptême et la confirmation de l'Eucharistie. Nous y employons deux fois, parce qu'actuellement nous devons parler de ces trois sacrements-là. Initiation qui aboutit à l'Eucharistie. Donc, la différence entre l'initiation chrétienne et l'Eucharistie, c'est que l'initiation chrétienne comporte baptême et confirmation qui amène à l'Eucharistie. L'Eucharistie est comme l'horizon de l'initiation chrétienne. Puis, est-ce que vous avez jamais pensé, baptême et confirmation, on ne reçoit qu'une fois dans la vie. On ne reçoit pas deux fois le baptême ou deux fois la confirmation. Mais par contre, l'Eucharistie, on y participe tous les dimanches, surtout, peut-être tous les jours, si on veut y aller. Vous voyez, donc, c'est un sacrement qui est réitérable, on dit. Je peux y participer autant que je veux. Comme si, nous le verrons, comme si l'Eucharistie était la mémoire vivante de notre baptême. Alors voilà, c'est déjà un des enjeux. Si je ne vais jamais à l'Eucharistie, si je ne participe jamais à l'Eucharistie, peut-être que je risque de perdre de vue ce à quoi je me suis engagé, ou qu'on m'a engagé, que j'ai accepté de vivre à un moment donné de ma vie. Mais c'est là, dans l'assemblée chrétienne qui se rassemble justement au moment de l'Eucharistie, que je retrouve la grâce baptismale, d'où l'importance de l'Eucharistie, pour laquelle nous allons donner aussi deux séances de travail ensemble.
Est-ce qu'on peut voir, là je regarde le plan, et on va passer par
voilà.
On ne le voit pas bien.
Parce que vous n'avez pas la bonne feuille, je crois qu'elle est au fond.
Attendez, est-ce que vous avez tous ce papier? Je vous le donne, ceux qui ne l'ont pas.
C'est bon.
Il apparaît sur ce papier, voilà. Parce qu'on a les deux, vous l'avez ici.
Voilà, c'est pas... J'étais en train de commenter cela. Vous l'avez, oui. Donc, mission chrétienne, Eucharistie, et puis nous allons parcourir tous les autres sacrements, l'un après l'autre, hein. Réconciliation, l'ordre, le mariage, l'onction des malades. Réconciliation, naturellement, vous le savez, on l'appelait autrefois, et peut-être qu'on l'appelle encore aujourd'hui, confession. Hein? Aujourd'hui, on a pris l'habitude pas seulement, c'est pas une question d'habitude, c'est un avancement théologique, je dirais. Hein. On ne l'appelle plus confession, mais réconciliation. Déjà, vous voyez le jeu entre les mots, c'est très important. Est-ce que vous demandez jamais pourquoi réconciliation et pas confession? Ça change, vous remarquez?
Oui.
Déjà d'emblée, comme ça. Dire confession, j'ai l'impression que c'est moi qui dois vider le sac, n'est-ce pas? Réconciliation, c'est tiens, il n'y a pas que moi. Il y a un autre et il y a d'autres peut-être. Et surtout, on l'oublie, nous le verrons, il y a Dieu quand même.
Oui.
Oui. Non, mais c'est intéressant. Vous voyez, c'est... Et le mot réconciliation, c'est un avancement théologique dans notre propre tradition catholique extrêmement important. Voilà. Puis l'ordre, ben l'ordre, pas l'ordre qu'on met à la maison, l'ordre au sens d'être ordonné, encore que ce serait pas mal de mettre de l'ordre dans l'église, hein, donc, mais il y a quelqu'un qui pense déjà. Mais l'ordre au sens d'ordination, être ordonné à quelque chose, être au service de quelque chose. Et donc là, nous verrons que, voilà, généralement, derrière le mot ordre, on y met les trois... aspects du service ministériel qui sont l'épiscopat, le presbytérat et le diaconat, justement. Mais nous verrons qu'il n'y a pas que ça. Que justement, si les ministères ordonnés sont au service sacramentel, du coup, de l'Église, c'est pour éveiller d'autres ministères. Ils ne sont pas pour eux-mêmes. Et donc, ils renvoient à chaque chrétien, à chaque baptisé, la charge d'être des ministres, là où ils sont naturellement, et de la manière qu'ils peuvent le faire. Mais jamais un ministère, même un évêque, hein, n'est pas pour lui-même. où le prêtre ne fait pas le prêtre pour lui-même, un diacre non plus, hein, mais il le fait au service de l'Église. Et donc, à chaque fois, vous voyez, dans le cas précis, c'est dans le cas de l'ordre, mais le sacrement nous éveille, c'est un signal. Si je célèbre un baptême, tiens, ça me rappelle que le baptême, ça me rappelle quoi? La vie, les commencements, les engagements, la relation à Dieu, vous voyez. Donc, le sacrement est toujours de l'ordre d'un signe. Il éveille à quelque chose. Ou je vais à la messe, si je le pense que pour moi, tout le signe perd de sens. Si par contre je commence à réfléchir, tiens, je vais à l'Eucharistie parce que je vais faire mémoire, parce que le Christ s'est donné à moi et il m'a dit, fais ceci en mémoire de moi. Et réconcilie-toi avec ton frère avant de participer à l'Eucharistie. Mais tout ça, ça prend un sens beaucoup, éveille quelque chose en moi qui n'est pas que une participation, on dirait, passive ou individuelle à l'Eucharistie, par exemple. Voilà. Donc mariage, l'ordre, le mariage, là aussi signe, hein, de quelque chose, hein, notamment de l'amour de Dieu, hein, qui se manifeste dans l'amour de deux personnes. Hein. L'onction des malades, là aussi, vous vous rappelez, on l'appelait
l'extrême onction.
On entendait la clochette du prêtre passant. Alors on disait, voilà, il est en train de passer l'autre, hein, quand on entendait la clochette. Mais justement, là aussi, déplacement de la vision, onction des malades. Et donc, on peut être malade à 20 ans. Hein. C'est pas qu'on meurt à 20 ans, on peut mourir à 20 ans. Mais c'est pas parce qu'on a une maladie à 20 ans qu'on va mourir nécessairement. Surtout aujourd'hui, avec l'augmentation de la vie fait que quelqu'un peut rester malade longtemps dans sa vie. Hein? Et donc l'onction des malades est justement là pour dire la présence de Dieu par la communauté chrétienne. Hein? Parce que Dieu ne vient pas, ne tombe pas du ciel. Il a besoin de nos mains, de nos pieds. Dieu, est-ce que vous y avez jamais pensé ? La nativité du Seigneur que nous venons de fêter, l'épiphanie, nous rappelle ça. Il est venu presque nous dire, mais hey, j'ai besoin de toi. À nous, à toi, créature. Et c'est pour ça que je me fais créature. Eh bien, l'onction des malades n'est que le sacrement de la présence affectueuse de l'Église via ceux qui sont chargés de ce ministère auprès d'un malade.
Donc on peut le recevoir plusieurs fois.
Voilà, c'est à nouveau un sacrement réitérable en ce sens-là. Nous verrons, c'est une des, pas des révolutions, mais des développements, des mutations qu'on a eues par rapport à ce sacrement. Et puis voilà, et puis j'ai mis les funérailles. N'allez pas dire au Bernardin que les funérailles c'est un sacrement. Là, c'est une plaisanterie pour nos amis de l'école des Bernardins. Des funérailles, je veux dire, c'est la cato, donc vous voyez, on est... Les funérailles, pourquoi là? D'une part, parce que c'est aussi, vous savez, le cours évolue grâce à vous en vérité, hein, à vous, à vos prédécesseurs, hein, et ce sera vous cette année. Mais déjà, je ne faisais pas tous les sacrements autrefois, je ne faisais que les principaux. Puis les étudiants du sujet, mais quand même, voudraient savoir quelque chose de l'ordre. Donc c'est pour ça que l'ensemble des sacrements sont donnés là. Et même on a débordé les sacrements, j'ai proposé de traiter des funérailles. Pourquoi les funérailles? D'une part parce que, justement, souvent, on pose la question pendant le cours, est-ce que les sacrements resteront toujours sept sacrements? Parce que nous verrons, déjà ce matin, cet après-midi, qu'on n'est pas parti pour dire sept sacrements, hein, dans l'Église. Au début, on disait 12 sacrements, 14, quelqu'un 3, quelqu'un 6. Donc, il y avait une grande perception de la sacramentalité, de l'aspect sacramentel, de ce signe, de ce geste. Et puis, on les a fixés à 7. Eh bien, en ce sens-là, les funérailles ne participeraient pas à la vision des sept sacrements. Mais pourtant, aujourd'hui, les funérailles, le moment des funérailles est un moment très intéressant dans la réflexion sur les sacrements. Pourquoi ? Parce que c'est justement le moment où généralement les gens qui ne venaient pas à l'église viennent à l'église. Et donc, c'est un moment privilégié de l'annonce de la foi. Même, je ne sais pas si vous avez participé à des funérailles, on peut avoir au moment des obsèques de quelqu'un la présence de gens qui ne sont pas croyants nécessairement ou qui sont éloignés de l'église. Vous voyez ? Eh bien, ce geste donné, offert pour celui qui vit la mort dans le Christ, devient lieu d'annonce de la foi chrétienne. Il est un signe extrêmement important. Première chose. Donc, quelque part, on a comme l'impression qu'il a ce geste des funérailles, des obsèques chrétiennes, une dimension sacramentelle très forte, très importante. Et parce qu'il devient annonce. Et puis aussi parce que, effectivement, pour lui-même, dans sa célébration, il n'est que le résumé ou la réplique, je dirais, de l'expérience baptismale. Est-ce que vous y avez jamais pensé ? Les signes que l'on fait dans les funérailles sont très proches de ce que l'on fait au moment du baptême. Naturellement, de manière symbolique, hein. L'eau bénite, le cierge pascal, vous voyez, les fleurs. Les fleurs, ce n'est pas que des trucs pour des morts. Les fleurs disent la vie, n'est-ce pas ? La beauté, l'envie de vivre. C'est une annonce, les funérailles, tout à fait de... Et puis, il y a un autre aspect, justement, intéressant pour les funérailles. Alors, on peut déjà le vérifier ensemble. Je vous dirai après comment faire le cours. Mais quelle serait la différence entre les funérailles et les autres sacrements, du point de vue de celui qui le donne, de celui qui le ministre?
Ça peut être quelqu'un d'autre qu'un prêtre.
Voilà, ça peut être quelqu'un d'autre qu'un prêtre. Souvent, c'est quelqu'un d'autre qu'un prêtre désormais. C'est même pas ça peut être. C'est souvent le cas, ce n'est pas qu'un ministre ordonné. Souvent, aujourd'hui, pour les funérailles, on fait appel à des laïcs. Des laïcs sont chargés de diriger le moment des obsèques chrétiennes. Et donc, vous voyez, c'est intéressant comme lieu d'observation, parce que cela ouvre à comment on peut percevoir la ministérialité dans les sacrements. Nous le verrons aussi pour d'autres sacrements. Mais il y a derrière toute la question, pourquoi, par exemple, une femme ne peut pas être ministre ?
Hein ? Voilà. Quand vous dites un laïc, excusez-moi, pour
oui.
Les funérailles,
oui.
C'est un diacre ?
Non, un laïc, vous.
Ah, oui.
Vous, si vous êtes engagé dans les services, dans les équipes de la paroisse, vous pouvez un jour, après le CIF, être appelé à charger de l'accompagnement ou de la célébration des funérailles.
Mais est-ce que ce n'est pas justement pour ça que ce n'est pas un sacrement, puisque
voilà. Ce n'est pas un sacrement. Alors, il n'y a pas que ça. Ce n'est pas un sacrement aussi parce que celui pour lequel on le fait est mort. Ça nous dit déjà quelque chose des sacrements. Hein? Les sacrements sont des signes. Retenons déjà ça, on y reviendra.
Des signes de vie.
Des signes de vie, bien sûr. De l'intervention de Dieu. Quand je dis de vie, de l'intervention de Dieu, n'est-ce pas ? La vie est Dieu qui agit. Mais justement, comme ce sont des signes, je disais tout à l'heure, les signes nous éveillent à quelque chose. C'est comme le feu rouge de la route, hein, où, voilà, il nous dit quelque chose, où vous avez vu, en cette période, les villes étaient illuminées de manière artificielle. Et ces illuminations étaient la lumière de quoi ? Elles étaient signes de quoi ? De la fête de Noël, n'est-ce pas ? Voilà. Et le sacrement, quelque part, est signe de quelque chose. Et effectivement, signe de vie et signe de l'intervention de Dieu, n'est-ce pas? Mais ce signe a besoin d'une médiation, d'être de quelqu'un qui nous le donne, n'est-ce pas? Là aussi, vous voyez pourquoi une ministérialité, pourquoi il faut être ordonné pour célébrer un sacrement. Ça, c'est le théologien Bernard Sesbouet qui le dit de manière très pertinente et importante quand il réfléchit au sacrement et à la dimension œcuménique. J'ouvre une parenthèse, comme ça vous comprenez pourquoi je dis ça. Généralement, dans le dialogue œcuménique, vous le savez ou vous le saurez, les protestants disent « pas besoin de beaucoup de médiation, pas besoin de beaucoup de ministres. C'est Dieu qui agit », disent les protestants. De manière... Et il faut tenir ça, hein, il faut leur rendre grâce pour ça, les remercier, parce qu'ils nous rappellent l'importance de l'origine de nos actions, n'est-ce pas? Les catholiques et les orthodoxes mettent par contre plus d'attention, ils disent oui, médiation, mais il n'y a pas de médiation, il n'y a pas de lien direct avec Dieu. Comment je peux atteindre Dieu que je ne vois pas, que je ne touche pas, que je ne peux pas écouter directement? Eh bien, un ministre ordonné est révélateur de cette action de Dieu, est signe de cette action de Dieu, par sa parole, ses gestes, le déroulement d'une liturgie, vous voyez. Et donc effectivement, je reviens à la question qui était à la perception qu'on avait tout à l'heure, les funérailles, par rapport au sacrement, ont cette différence. Autrefois, c'était le prêtre, je vous fais remarquer, jusqu'il y a quelques années. Hein. En vérité, aujourd'hui, pourquoi les funérailles permettent, donnent lieu à la présence de laïcs? Tout simplement parce qu'on se rend compte que le prêtre ne veut pas tout faire. Il y a, concrètement, assez souvent ça vient de là, hein, entre autres, de la pénurie d'ordination presbytérale, n'est-ce pas? Et donc je dis, tiens, alors, c'est providentiel presque, un laïc, un baptisé, dans le cas précis, peut-être, peut assurer cette présence d'un baptisé au cours des funérailles. Alors, c'est cela qui devient intéressant. Voilà pourquoi j'ai mis les funérailles. Parce qu'il nous permet de voir un geste qui n'est pas sacramentel, au vrai sens du terme, hein, mais qui a une forte vocation sacramentelle. Ce n'est pas un jeu de mots, hein, ce que je vous dis. Il est tout fait pour ouvrir à un avancement, à une évolution dans la perception qu'on a des sacrements eux-mêmes. Et donc, voilà pourquoi je le mets comme, pas seulement parce que nous verrons, il fait partie de cette tension entre, dans la vie chrétienne, baptême et funérailles, mais aussi parce que toutes les autres raisons que je viens de dire. Comment nous allons faire cela? Comment le cours va avancer? Alors, pour chaque sacrement, mis à part aujourd'hui où nous parlons en général de la vie sacramentelle, eh bien, pour chaque sacrement, nous allons avoir deux moments précis. L'un est un moment que j'appellerais plutôt historique, c'est-à-dire on va essayer de comprendre comment on est arrivé à célébrer de la manière dont nous célébrons aujourd'hui. Pourquoi, par exemple, comment ça se fait que nous, pour le baptême, par exemple, d'un enfant, là je prends l'exemple d'un enfant, on demande aux parents de tenir l'enfant pour le baptême, de le présenter devant l'église, et donc le presbytre hein, ou le diacre, hein, et pourquoi il faut lui verser de l'eau sur la tête, et pourquoi il faut prononcer le nom du Père, je te baptise au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, et comment ça se fait qu'après, pour un enfant, il ne participe pas tout de suite à l'Eucharistie, mais on l'amène en gros devant l'autel, et on récite le Notre Père. Voilà. Tout ça, on va essayer de le comprendre. Et on pourrait dire, pour les autres sacrements, pourquoi l'Eucharistie, nous avons une liturgie de la parole et puis une liturgie eucharistique. Est-ce qu'on est arrivé à le faire tout de suite? C'est très important, cette dimension historique. pas seulement parce que je me sens à l'aise avec cette approche qui est la mienne, et donc de comprendre d'où vient un geste sacramentel, mais parce qu'aussi ça nous montre quelque part l'évolution des sacrements. Les sacrements n'ont pas été tout le temps comme nous les avons aujourd'hui. C'est très important. Vous savez que dans nos milieux ecclésiaux, assez souvent, on dit « oui, on a tout basculé, on a fait n'importe quoi avec la réforme du Concile Vatican II, on a tout jeté à la poubelle, ou bien on a tout refait. Ce n'est plus la messe comme c'était autrefois, depuis toujours. » Mais ça n'a jamais existé, une messe depuis toujours. Je dis toujours, si Jésus devait revenir aujourd'hui, il sortirait de l'Église, parce qu'il ne reconnaîtrait pas ce que l'on fait. Mais peut-être qu'il se rappellerait de certaines choses. Mais pas exactement, vous voyez. Donc, c'est important pour cela. Et donc, le moment historique est très important dans ce que nous allons faire. C'est aussi pourquoi je donne beaucoup de prix à ce moment que j'appelle, à cette dimension historique des sacrements, parce que nous sommes désormais, comment dire ça, je dis pas, là, je suis pas pessimiste en le disant, mais je pense que nous devons interroger. Hein. Vous savez que les chrétiens diminuent de plus en plus, n'est-ce pas? Alors je dirais, nous sommes presque les derniers des Mohicans, mais ce n'est pas exactement ce que je voulais dire. Mais nous sommes, voilà, plus en positif, nous sommes porteurs d'une tradition, d'une joie d'être chrétien. Et si nous devons nous reconnaître chrétiens, c'est par les gestes que nous posons. Et donc, par le fait de participer à l'Eucharistie, de faire baptiser un enfant, d'accompagner quelqu'un à la confirmation, vous voyez, tout cela, d'aller aux funérailles de quelqu'un, hein, de prier pour lui, voilà. Tout ça, ça dit le fait d'être, entre autres, il n'y a pas que ça, mais ça dit entre autres notre être chrétien. Et donc, assez souvent, savoir d'où viennent certains gestes de notre manière de vivre, hein, c'est quand même important. Hein. Tout le monde est très... Il y a un engouement aujourd'hui pour, par exemple, c'est pas une critique que je pose là, mais c'est un constat. Il y a pas mal de nos contemporains qui sont... Tout le monde est en... Il y a un engouement vis-à-vis du bouddhisme. Et donc, on est très conscient de ce qu'est le bouddhisme, différentes formes du... Ou l'hindouisme. Ma génération, c'était plutôt l'hindouisme. C'était aller en Inde. Donc, mais ça, c'est autre chose. Mais... Vous voyez, on a un engouement pour certains aspects qui ne font pas partie de nos racines, qui nous sont propres. Mais c'est important que nous sachions qu'il y a des richesses aussi dans notre propre tradition. Et qui, comme les autres, hein, je ne dis pas que la nôtre est meilleure, mais comme la nôtre, peut donner un sens à la vie. Rythme la vie, justement. Hein. Un confrère me disait ça, et c'est très intéressant, pour faire comprendre l'enjeu de connaître l'histoire des sacrements et de ce que nous vivons. Nous sortons, nous sommes encore un peu dans la lumière de Noël, n'est-ce pas? On vient de fêter Noël. Vous savez que historiquement, les chrétiens n'ont pas inventé Noël. Les chrétiens ont voulu, quelque part, contrer des fêtes païennes dédié au dieu soleil autour des solstices d'hiver, et ils l'ont dit, ce soleil donc, que vous vénérez, c'est le Christ, et donc nous allons fêter la nativité du Christ, la manifestation. Et bien la vie civile a été quelque part a vu une mutation grâce au christianisme ou par le christianisme. Pendant des siècles, des siècles, on a fêté Noël avec cette dimension très religieuse, liée au christianisme. Aujourd'hui, me disait un collègue de manière très intelligente, c'est l'inverse qui se fait. Peu à peu, la fête chrétienne devient une fête païenne. Elle se vide de ce contenu chrétien pour fêter les grands magasins, tout ce que vous voulez. Et à la limite, c'est intéressant de l'analyser. Pourquoi les familles tiennent quand même à fêter Noël sans nécessairement donner un contenu chrétien. Hein? Vous voyez ? Donc le christianisme et l'évolution des gestes liturgiques ou sacramentels disent quelque chose de notre propre tradition. Et nous pouvons être porteurs de cela.
On le fait chez les chrétiens depuis quand, Noël, depuis quel...
Depuis le 4e siècle. Depuis, voilà, au début du 310, 312, je dis des dates comme ça, mais autour de l'année 300.
Excusez-moi, je vais...
Oui.
Est-ce qu'on a dans l'histoire réservé une place de la prière dans le sacrement et, est-ce qu'on a pensé à ça ou pas ?
La prière en tant que telle. Oui. La prière chrétienne a toujours eu un rôle très important dans la vie chrétienne, effectivement. Donc, qui à un moment était lié au sacrement, qui faisait partie de la vie d'un chrétien. Hein? Il y a des textes magnifiques de l'Antiquité chrétienne, justement, où on voit bien que la première chose à laquelle on demandait aux chrétiens, c'était de prier le matin, de prier le soir, de prier à midi. Voyez, ce sont des rythmes tout à fait juifs, hein, prier le matin, l'après-midi, le soir. Et donc, et puis on a donné une volonté comme d'un charisme, d'un don du chrétien. Une fois baptisé, il pouvait dire Notre Père en vérité. Et donc, le Notre Père était fondamental et faisait l'objet de commentaires, de la prière. Donc la prière est importante. La prière va dynamiser la vie chrétienne, effectivement. Donc je vous disais, aspect historique, très important, pour chaque sacrement, nous allons voir, vous saurez tout. Même ce que vous voudrez savoir, que vous n'avez jamais su, vous le saurez. Pourquoi on met la goutte d'eau dans le vin, des choses comme ça. Voilà, tout ça. C'est extraordinaire. On ne comprend rien du tout. Mais je vais vous dire tout ça. Voilà. Mais après, naturellement, nous rentrons dans le sacrement. Si nous le célébrons comme ça, comment nous le célébrons? Et là, je vous propose, on le fait rarement dans les facultés de théologie, naturellement, à l'Hackathon, on le fait. J'étais initié, j'étais formé comme ça. On va prendre les rituels eux-mêmes. Qu'est-ce que c'est un rituel? C'est le livre liturgique qui sert pour célébrer le sacrement. Alors, le rituel du baptême, le rituel, le missel pour la messe, le rituel de l'onction des malades, le rituel de la réconciliation. C'est-à-dire tous ces livres qui, généralement, notre ami diacre le sait, les laïcs ne connaissent pas. Parce que, généralement, nous vivons un peu de manière un peu passive les sacrements, n'est-ce pas? Alors, il faut dire, là, ce n'est pas une critique, c'est tout à fait une critique affectueuse. Ah, souvent, même pas les prêtres connaissent ces rituels. Je sais par des étudiants. Donc, qu'au moment d'un baptême ou d'une initiation chrétienne d'un adulte, oh, qu'est-ce que c'est ce livre. Donc, mais à vous, je pense, pour nous, pour comprendre là, qu'est-ce que c'est un sacrement, c'est important d'aller dans le livre qui est censé guider la célébration du sacrement. Et donc, je vous donnerai des extraits de ces livres liturgiques qui concernent les sacrements. Donc, deux moments, et puis je vous demanderai, comme nous venons de le faire de manière très naturelle, une belle interaction dans le cours. Hein. Je ne vais pas vous faire... vous aurez des plans, vous aurez des documents, mais n'hésitez pas à poser des questions. C'est ça aussi qui donne vie et qui caractérise un cours... et qui permet d'ouvrir des portes que parfois on n'ouvre pas parce que, voilà. Donc n'hésitez pas, je veillerai à modérer les questions pour que ça ne devienne pas qu'un cours de questions, mais aussi, voilà, aussi des questions, mais ne soyez pas gênés à les poser. Au contraire, hein, souvent les questions peuvent éclairer un cours lui-même. Et donc, aujourd'hui, je voudrais qu'on regarde ensemble qu'est-ce qu'un sacrement. Je vous ai mis là le canevas des propos que je vais vous raconter et que je vais essayer d'illustrer. Donc, c'est simplement une sorte de promémoria, c'est-à-dire de texte qui vous permet de suivre mon propos lui-même. Voilà. Donc, je mets là, le sacrement est au cœur de la liturgie. Déjà, est-ce que vous apercevez la différence entre le mot sacrement et liturgie ? Est-ce qu'on ne vous a jamais raconté d'où ça vient le mot liturgie ? Non ?
Service public,
merci. Vous avez fait du grec ? Non. C'est exactement ça. Presque, voilà. Donc, je vais le faire avec liturgie. On a là deux mots, hein, et le mot sacrement. Ce sont deux mots qui, le premier, vient du grec. Hein. Leiturgia. Et là-dedans, dans le mot leiturgia, vous entendez quoi ? Urgie. Hein, comme chirurgie. Urgie dit la main, faire, justement. Hein? Le faire, l'action. Hein? Et puis vous avez l'autre racine dans le grec qui est le mot lei et le mot laos. Et donc le mot veut dire action du peuple. Comment on est venu, là aussi, arriver à cette expression-là, liturgie, pour le monde chrétien ? Parce que le mot liturgie, ce n'est pas un mot chrétien au début. Le mot liturgie est un mot grec, employé dans les villes grecques, était le mot que l'on donnait à une action commune dans une ville. Par exemple, affréter un navire. Préparer une représentation théâtrale dans une ville grecque. C'était tout le peuple qui participait. Faire, en gros, des travaux publics au service de la ville. Vous voyez ? J'ai encore connu ça dans un vieux village, dans un village perdu en Italie, quand j'étais objecteur de conscience à mon époque, où les gens du village, les montagnards, faisaient des travaux communs pour nettoyer la route. Oui, alors tout le monde s'y mettait deux jours, avant l'hiver, hein, pour que la route ne soit pas encombrée, on se mettait, et c'était un travail du peuple.
Intérêt public.
Ah, d'intérêt public, voilà, c'est ça. Ça vient de là. Et les chrétiens, peu à peu, se rendent compte que s'adresser à Dieu en se rassemblant, le prier, l'invoquer, lui demander de agir était de l'ordre d'une action du peuple rassemblé. Et donc était une liturgie. Alors vous voyez que la liturgie peut recouvrir, alors je passe dans notre propre perception et dans notre propre pratique, la liturgie déborde les sacrements. Hein? Déborde les sacrements. Par exemple, les funérailles ne sont pas un sacrement, mais sont une liturgie. Sont vécues dans un cadre qui est liturgique. Ou bien, ça se fait pas souvent, mais ça se fait parfois dans les paroisses. Ça se fait souvent dans les monastères. Chanter la liturgie des heures, ce n'est pas un sacrement. Mais c'est de l'ordre d'une liturgie, dans la mesure où un peuple se rassemble, un peuple prie, alors avec le chant, avec la parole, une prière. Hein. Le peuple fait des signes par le corps. Hein. Et ainsi de suite. Donc, il y a des actions faites par le peuple. Alors que le mot sacrement, est-ce que c'est clair là jusqu'à maintenant ? Vous avez saisi, hein ? Donc, quand je dis liturgie, pensez à cela. C'est de l'ordre d'une action d'un peuple qui se rassemble, n'est-ce pas ?
Il y a un ordre aussi dans la combinaison des deux. Alors que le mot sacrement, par contre, vient du mot latin, d'un mot latin. Ce n'est pas difficile. Sacramentum. Et le mot sacramentum lui-même, vous avez là la finale, donc d'abord, de là aussi deux termes, sacer, sacré, et la finale, mentum, dit l'engagement, un engagement. Faire, avoir un engagement sacré. Ça y est. Le mot sacramentum en tant que tel, ce sont les chrétiens ou les théologiens, nous dirions aujourd'hui, issus du monde africain, de l'Afrique du Nord, au IIIe siècle, imaginez-vous. C'est eux qui ont inventé ce mot-là. Notamment un des plus grands de ces auteurs, qui s'appelle, peut-être vous l'avez entendu, Tertullien. Ça vous dit quelque chose, Tertullien ? Je vous mets comme ça les choses, mais ça vous donne envie de le lire. Hein. C'est Tertullien, un grand avocat, païen, converti au christianisme. Tertullien. Le mot Tertullien, vous le mettez. Vous n'allez pas appeler votre petit-fils Tertullien. Non, c'est pas. Surtout que, vous savez, c'est un auteur chrétien qui a commencé bien un temps dans l'église catholique et puis est terminé dans une église un peu sectaire, donc du coup il n'est pas considéré comme vraiment mais c'est un grand auteur. Mais c'est lui qui dit tous les gestes comme le baptême, comme l'Eucharistie, ce sont des sacrements, c'est-à-dire ce sont des moments sacrés qui nous engagent vis-à-vis de Dieu. D'où le mot sacramentum. Et donc, je reprends ce que je vous ai marqué là. En effet, les sacrements sont au cœur de la liturgie. Pourquoi ? Parce qu'on pourrait dire de manière différente, que, différente, on peut dire de manière générale, que, et là je vous fais un petit dessin, tout à fait symbolique et précis, que nous sommes entourés dans notre vie chrétienne de la liturgie. Par exemple, est-ce que ça vous arrive le matin, vous réveillant, je ne sais pas, de vous signer. Vous vous signez en présence, et vous regardez le ciel, vous regardez une image si vous l'avez dans la maison. Vous allumez une bougie dans un coin de votre maison et vous dites à notre Père, c'est de la liturgie ça. Pas parce que seulement elle vous met devant Dieu, mais parce que ce geste est un geste partagé par tous les autres chrétiens. Mais nous sommes entourés, disons, nous vivons de liturgie. Mais les sacrements sont au cœur de cette liturgie. Sont comme ils ponctuent notre vie. Il n'y a pas tout le temps des sacrements. Il n'y a pas tout le temps un baptême. Il n'y a pas tout le temps une confirmation. Il n'y a pas tout le temps une onction des malades. Mais dans cette grande, dans le fait que la liturgie est célébrée, les sacrements ponctuent ils sont au cœur de la liturgie en tant que telle. Mais les sacrements constituent aussi les célébrations liturgiques fondamentales de l'Église. Vous avez remarqué que, entre autres, généralement, les sacrements, quand on vit un sacrement, on va à l'Église. N'est-ce pas ? Et donc, du coup, on pourrait dire qu'effectivement, ils constituent les célébrations fondamentales de l'Église. Pas parce que seulement il s'adresse à notre vit à un moment précis de notre vie, mais aussi parce que l'Église, nous allons concrètement, corporellement à l'Église pour les vivre, pour les célébrer, n'est-ce pas? Et puis donc, en ce sens, c'est une sorte d'affirmation, toute liturgie est sacramentelle dans la mesure où elle est en relation avec le mystère pascal. C'est-à-dire que, nous le verrons peu à peu, hein, que tous ces moments que j'appelle sacrements, que nous appelons sacrements, ne sont rien d'autre que le signe de la vie, de la mort et de la vie du Christ en nous. Ils inscrivent en nous l'expérience qui était celle du Christ, de sa mort et de sa résurrection, dans l'attente de son retour. Et donc, effectivement, on peut affirmer alors que toute liturgie, même le fait de me signer, c'est simple, là, le signe de quoi? Mais le fait de me signer et de prononcer intérieurement au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, me renvoie à ce mystère de la mort et de la résurrection du Christ. Pas seulement parce que je trace sur moi la croix, mais aussi parce que je me dis, je me mets en relation avec Dieu lui-même. Alors, on peut alors se demander si toute liturgie est sacramentelle dans la mesure où elle est en relation avec le mystère pascal, quelle est la délimitation et l'extension du concept de sacrement? Alors là, je reviens au mot sacrement. Je propose de le faire après une pause de 3 minutes.
Je ne pouvais pas les autres,